et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+, en compagnie aujourd'hui de moi-même François de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut tout le monde.
Alors aujourd'hui nous avons plusieurs invités autour de la table pour parler d'un projet commun. Alors je vais vous laisser vous présenter comme il y a du monde. Alors, on accueille notamment Nathan.
Salut à tous.
On va l'expliquer, vous faites tous partie d'un projet. On vous appelle la team Nano, c'est ça. Et autour de la table, donc, on a trois fondateurs. On a également Jérémy, tu es le community manager.
C'est ça.
Voilà. On a également Justin.
Bonsoir.
Et Hugo.
Ah, ben voilà. On en profite pour régler le micro. Je m'excuse en fait.
Alors, on va détailler tout ça. Alors, cette team Nano, vous proposez donc quoi ? Quelqu'un peut définir sur les grandes lignes le projet, parce que je sais qu'il y a une association derrière. Il y a également un jeu de société qu'on a pu tester avant l'émission. C'était une bataille assez acharnée entre les joueurs. Alors, on expliquera bien sûr tout en détail le long de l'émission. Alors déjà, sur les grandes lignes, comment est-ce qu'on pourrait rapidement définir cette équipe et ce projet ?
Eh ben, si vous voulez, je me lance.
Vas-y.
Bah déjà, merci beaucoup de nous accueillir. Ça fait super plaisir d'être ici pour présenter le projet. En effet, on s'appelle l'équipe de la Nano parce que on s'est rencontrés tous les quatre pendant nos études d'ingénieur à l'ICEN, une école d'ingénieurs lilloise, et on était tous les quatre en option nanosciences et physique quantique, et donc on s'est retrouvés pendant nos années de master autour de projets en physique quantique dans les laboratoires de l'IEMN notamment, et c'est pendant ces heures de cours à cheval sur notre école d'ingé ou à la fac que on a commencé à créer un jeu qu'on a plus tard appelé le Citron Coco. Alors on a commencé par tout simplement jouer à un jeu qui était très répandu à l'époque, le Tamalou, le Dutch. Et assez vite, on s'est lassé de ce jeu. Et du coup, pendant les intercours, on s'est mis à inventer des règles petit à petit pour le rendre plus intéressant, plus compétitif et plus collaboratif surtout. Et à l'issue de notre école d'ingénieurs, du coup, on a décidé tous les quatre de partir faire une mission de solidarité internationale en Namibie. Du coup, je peux peut-être laisser un des autres présenter la mission qu'on a fait en Namibie l'été 2019.
Oui, ou on pourra en venir en détail
tout,
après.
Tous en même temps.
Du coup, en 2019, on est parti en Namibie avec Justin, Olivier et Nathan pour aider un centre, le Bernard Nordcamp Center, alias BNC, qui accueille quotidiennement des enfants, donc une centaine par jour, et qui a pour but d'aider ces enfants au quotidien, qui leur dispense des cours de maths et d'anglais durant l'après-midi, parce que le matin, ils ont cours le matin et l'après-midi sont libres. Et donc voilà, c'est un centre qui les accueille, qui leur permet aussi de manger le midi, qui leur dispense des cours et qui les aide au quotidien, que ce soit dans leurs projets personnels, pédagogiques ou tout simplement un aspect culturel comme la musique, du sport et autres. Et donc c'est en revenant en France qu'on a décidé de créer notre association, mais on va pas tout dire d'un coup, je pense.
Effectivement.
Heureusement que t'as dit de faire bref.
Bref. Hein.
Mais c'est toujours pareil, mais bon, tant mieux. On a une heure à combler.
Ouais, c'est ça. Mais pour les auditeurs qui veulent un petit peu suivre en direct, qui ont un ordinateur ou un téléphone sous les yeux, le site c'est citroncocojeu.com.
C'est ça, citroncocojeu.com ou citroncocogame.com.
Comme ça, ils auront le détail du projet pour voir le... Vos têtes, je crois, peut-être.
Ouais, c'est ça, dans la rubrique équipe.
Et c'est pas blanc manger coco comme...
Il y a des erreurs. Okay. Ça commence déjà.
Alors, c'est une tradition dans l'émission, et c'est vrai que cette tradition est difficile lorsqu'on a beaucoup d'invités autour de la table, mais on va la faire quand même. Ce qu'on aime bien savoir, c'est un peu le parcours de nos invités.
Ça va aller vite, hein, ils sont encore jeunes.
C'est ça, mais surtout un peu les routes, puisque vous avez quand même créé un jeu de société. Donc, comment est-ce que vous en êtes venu à ce parcours ludique ? Quels sont vos premiers pas ?
Est-ce que vous jouiez ? Est-ce que vous y étiez des joueurs avant d'arriver justement
ensemble ? Au début, ce qu'on aimait bien surtout, c'était le baby-foot. On aimait bien le baby-foot.
Normal.
Et après, on s'est dit, pourquoi pas aussi les jeux de cartes ? Du coup, super.
C'est plus facile à transporter, c'est pas faux.
Étant étudiant,
c'est plus facile.
Et
Du coup, ben, on jouait, comme l'a dit tout à l'heure Nathan, au Dutch et auquel on a rajouté des règles.
On était tous des bons joueurs à la base.
Mais même avant, je sais pas, quand vous étiez enfant, vous venez de famille de joueurs ou
Moi, j'ai 6 frères et j'avoue que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup joué au risque. Par exemple, alors c'est vieux hein, maintenant, mais voilà, j'adorais ces moments ludiques entre frères et ouais, c'est resté, je pense, et ça va pas me quitter.
Est-ce que le risque, c'est pas un peu un des premiers jeux qui vous permet de rentrer dans le jeu un peu plus poussé?
Ça fait partie, moi, c'est pareil. Je n'avais que 4 frères, mais c'était aussi des risques, richesse du monde, bah, Monopoly, etc., on va en parler, mais le risque aussi qui a mené enfin un petit peu plus de baston. Mais...
De stratégie aussi.
Bon, c'était une excuse de plus pour se taper dessus entre frères, sorti.
Le risque, à part le jeter des dés, t'as pas de stratégie.
C'est ça, comment ça, de la chance au dés.
Après, ça a l'air de rien, mais quand je parlais du baby-foot, c'est vraiment, au final, on faisait 2 teams. C'était de la compétition gentille pour dire, écoutez, 2 teams, ils s'affrontent.
Et puis, du coup, on améliore, on change un peu les règles pour l'histoire, parce qu'au bout de 4 heures de baby-foot, on va rajouter un petit twist.
Pour oublier, le but, c'était de mettre des sautés du demi et de lober le
goal. Comme quoi, déjà, l'esprit compétitif entre vous, c'était...
Et c'est quand je joue au jeu de cartes, en tout cas au Dutch, c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à avoir, c'est justement l'esprit coopératif. Et du coup, c'est ce qu'on a voulu rajouter et ça part un peu de là, parce qu'on avait créé justement ces fameux 2 teams qui se combattent gentiment. Et on a voulu garder ce...
gentiment.
Ouais, une petite rivalité qu'on a entretenue jusqu'à la fin de nos années d'études.
On gagnait tout le temps. On gagnait tout le temps de toute manière.
Non, c'est faux.
Vous ne mélangez pas les équipes, c'est toujours les deux même qui affrontent
les deux. C'est toujours Nathan Justin contre Olivier et moi.
Donc,
c'est toujours la team alpha et team bêta, et à chaque nouvel an, le but c'est de passer de devenir team alpha et d'être la team qui gagne au nouvel an. Donc,
il y a des trucs qui vont
après, là vous allez repasser bêta, c'est
non,
sûr.
Non, mais après, on n'est pas buté non plus à ce point-là. De temps en temps, bon, allez. Quand on s'accepte.
On est malade.
On veut bien mixer les équipes.
Justement, tu viens de citer Olivier, qui fait partie, qui est l'un des membres fondateurs également, qui n'est pas avec nous ce soir parce que le studio a quand même assez limité.
Oui, puisqu'en fait, il travaille à Strasbourg. Du coup, faire la route.
Oui, parce que vous êtes tous originaires de la région. Enfin, vous avez fait vos études à Lisène de Lille, mais vous êtes rencontrés ici. Mm-hmm. Mais après, les études, on va revenir un petit peu en détail sur le parcours. Après, vos études sont terminées. Il y en a qui ont commencé à travailler. Et voilà.
Bah oui, c'est vrai.
C'est ça.
Et il y a un invité supplémentaire dans le studio qui est muet pour l'instant.
on le découvrira tout à l'heure.
Non, je parle pas du community manager. Non. Je parle d'encore un autre invité qui est tranquillement dans son coin, qui attend qu'on le prenne dans les bras pour.
C'est du teasing. Il n'y aura pas de spoiler. Exactement. Voilà.
Ok, surprise alors. Ah mais oui, on en avait parlé tout à l'heure.
Alors, Jérémy, comme toi, tu n'es pas sur le site, puisqu'il y a une présentation, je vous invite à aller sur citroncocojeux.com pour, supposons que vous êtes pendant l'émission, comme ça, vous pouvez un peu voir à quoi ressemble l'association, le jeu, et voir un peu aussi la tête de nos invités aujourd'hui. Alors, Jérémy, toi, tu as rejoint le projet un peu plus tard, c'est ça ?
En cours de route, c'est ça. En fait... Je connais Hugo depuis 8-9 ans déjà, à peu près. Et donc, j'ai connu le Citron Coco à distance, on va dire. Moi, pendant ce temps-là, je travaillais de mon côté, de 2015 à 2019. 2019, j'ai arrêté de travailler et j'ai tenté de reprendre des études en... comment ça s'appelle en informatique.
On peut pas t'aider.
Je cherche mes mots. En informatique. Et là, actuellement, je suis en train de faire une formation de community manager. Et c'est dans le cadre de cette formation où je dois effectuer un stage. De ce fait, tant qu'on peut aider les amis, voilà, je me suis proposé pour le Citron Coco, pour tout ce qui est communication, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, création de visuels et relations avec tout ce qui est commentaires des particuliers, des retours clients.
Voilà. C'est inévitable maintenant. Et je confirme, pour les futurs employeurs, il est très efficace, parce qu'en début d'après-midi, j'allais mettre une petite publication pour présenter nos invités. Et le travail avait déjà été fait sur la page Facebook de Citron Coco. J'ai juste eu à partager. Tout était fait. Il y avait un visuel.
C'est pour ça que je me suis dit, tiens, il a fait un beau fond.
Non, c'est pas moi.
C'est pas moi.
c'est des heures. Beau logo de campus, j'étais impressionné, mais ah, je suis déçu.
On fait les choses bien.
Il a tout détouré et tout à la main.
Si tu cherches un autre stage, bah voilà.
Il n'y a plus qu'à m'appeler.
Alors, je vois hein, d'ailleurs en étant sur le site que vous avez tous plusieurs cordes à votre arc. Alors, par exemple, Nathan, toi, tu fais un peu de musique. Je vois que tu es le nano violoncelliste.
Ouais.
Alors, je fais un peu de teaser pour tout à l'heure.
Ouais, ouais, ouais. Moi, en sortant d'école d'ingé, je me suis assez vite aperçu que le travail en industrie ou en laboratoire, c'était pas trop mon truc. Et je me suis réorienté en partant en Allemagne me former au violoncelle.
T'en avais jamais fait avant ?
Si, 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 ah, si bon, j'en fais depuis que je suis petit. Mais disons que l'emploi du temps d'une école d'ingé laisse pas trop la place à la pratique instrumentale. Du coup, c'était compliqué d'avoir un bon niveau en parallèle d'une école d'ingénieur. Du coup, je me suis lancé en sortant d'école. Je suis parti à Hanovre habiter pour me préparer à passer des concours. Et j'ai intégré le Conservatoire Royal de Bruxelles l'année suivante. Et depuis, je suis en études d'interprète violoncelliste au Conservatoire Royal de Bruxelles. Et cette année, je suis en master, voilà, au conservatoire. Et donc, je suis spécialisé plutôt en musique classique. Et c'est une formation d'interprète. Donc, grosso modo, on me donne des partitions à jouer. Et le but, c'est de les rendre les plus belles possibles, quel que soit le style.
Et d'intégrer plus tard des orchestres.
Ouais, éventuellement. Après, il y a pas mal de débouchés professeurs, intégrer un groupe, intégrer un orchestre, d'autres trucs.
On va le voir, ça mène à tout le violoncelle.
C'est vrai. Et on va en profiter pour écouter un peu de musique. Alors, on va prendre ce thème du violoncelle pour faire quelques découvertes ensemble. Et Dominique, tu as ramené un petit CD qui est lié aussi à une passion, hein, puisque l'univers geek a l'avantage d'être extrêmement large et il comprend notamment les films et les séries.
Exactement. Et Jean, j'ai entendu que les sœurs Berthollet, qui sont des violoncellistes, elles sont sœurs, c'est écrit dedans, elles sont violoncellistes très douées, elles ont sorti de nombreux albums, et elles viennent juste de sortir, je ne sais plus de quand ils datent, un album qui s'appelle Série, où elles reprennent, avec leurs deux violoncelles, des génériques de films et de séries. Donc je ne sais pas ce que tu as proposé de nous faire écouter.
Ah bah, on va s'en écouter tout de suite, un peu en direct, et ça permettra d'avoir la vie. Ah, en fait, c'est un blind test. Quelle série ?
Oui, je l'ai vu le nom tout à l'heure en plus et j'ai oublié. House of Cards ?
Pokémon ?
Quelle saison ?
Je sais qu'il va dire Pokémon à chaque...
Elle triche un peu, il n'y a pas que du violoncelle.
C'est effectivement House of Cards. Il y en a plusieurs, on va en profiter.
La Panthère Rose.
Oh, c'est parce qu'il a déjà joué, c'est pour ça.
Non, j'ai entendu la percu.
Ouais, pourtant, c'est un morceau assez classique.
J'allais le dire, mais je me suis dit non, c'est une série, donc faut que je trouve une série. Mais la Panthère Rose, ouais. Ah oui, maintenant que vous le dites.
C'est Pokémon, ça.
Ouais, Pokémon Rose.
Il y en a beaucoup, hein. Alors, bon, c'est là, oui, c'est, je pense que c'est la série la plus connue.
Ah, Game of Thrones. Bah, pardon. Games of Pokémon. Non, ça va là.
Alors, est-ce que quelqu'un connaît la série The Leftovers ?
C'est une série très récente, ça, oui, de science-fiction.
C'est pas un jeu vidéo ?
Ouais, c'est une série de science-fiction assez récente. Une partie de la population qui disparaît, quelque chose comme ça.
On va écouter The Leftovers et on se retrouve juste après donc de Camille et Julie Berthollet. Thank you. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+, dans l'émission Heureusement en France, avec plusieurs invités autour de la table pour parler notamment de Citron Coco, qui est un jeu de société. Alors,
et bien plus.
C'est vrai, on va détailler après, hein, bien sûr, tout ce qui est au niveau de l'association. Alors, Dominique, c'est vrai que tu as pu rencontrer nos invités dans un salon.
Oui, c'est ça, c'était le festival Ternois Ludique. C'était il y a quelques semaines, oui. Et on a discuté, je leur ai proposé de... Je leur ai demandé d'où ils étaient les gens, ils connaissaient un petit peu leur jeu. Bon, hop, je vais... On va faire simple, on va les inviter, puis voilà.
Et
parce qu'il y avait le jeu, mais effectivement, ce qui était intéressant aussi, c'est tout le projet derrière. Donc, je me dis, il y a de quoi faire une petite émission.
Ce qu'on aime bien aussi demander à Dominique, c'est qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Voilà, dans quel
ouais, cool, ça va. Non, hier, j'ai juste passé l'après-midi dans cette magnifique et riante cité de Roubaix, que certains connaissent autour de la table. Parce que ce week-end et le week-end prochain, c'est la Nuit des Arts à Roubaix. Alors, Roubaix, c'est une ville qui, sur les dernières années, a énormément développé de lieux pour les artistes et d'art. Pas que dans les rues. Et il n'y avait rien qu'hier. J'ai eu une cinquantaine de lieux à Roubaix. Ça s'appelle la Nuit d'Arts. Je pense que tu pouvais tourner toute la nuit. J'ai fait que l'après-midi. Mais et encore, il triche parce qu'il y a certains lieux où tu as 50 artistes sur place. Donc, c'est pas du jeu. En plus, il y avait la braderie des Arnes, mais ça sera que ce week-end. Mais le week-end prochain, les 11 et 12, vous allez sur le site de la ville de Roubaix. C'est assez bien fait. En plus, il y a le plan. Il y a énormément d'ateliers partout. J'ai fait des découvertes assez incroyables. Oh, si vous pouvez en plus faire vos achats de Noël, c'est très pratique. J'ai notamment découvert un lieu qui est juste derrière la mairie de Roubaix, qui s'appelle l'Alternateur, qui a été créé tout début de l'année ou fin de l'année dernière, qui recense sur 4 étages. C'est un ancien, c'est une ancienne, des anciens locaux des bureaux de filature. Il y a encore le bureau du président. C'est en plus, c'est un truc assez art déco, très sympa. Et sur 4 étages, enfin 5, puisqu'en plus il y a la cave, il y a que des ateliers d'artistes qui sont en résidence ou en invité, etc. C'est juste derrière, je ne vais même pas donner l'adresse, c'est juste derrière la mairie de Roubaix, c'est très simple. C'est un des exemples, nombreux exemples de trucs à visiter. Et donc ça, c'était hier après-midi. J'ai même fait une rencontre, le président de Radio Campus, Eric Brosse lui-même, qui faisait aussi le tour des ateliers d'artistes de Roubaix. Et cet après-midi, je suis allé à Grand Palais, puisqu'il y avait le salon Made in France dont on a parlé. Ça va, j'ai survécu. Oui, parce que ça présentait un peu tout ce qu'on peut fabriquer dans la région. Dans le sens. Alors, il y avait de la bière, il n'y avait pas que. Il y avait du fromage, il n'y avait pas que. Mais aussi, alors, champagne, gin, vodka, c'est fou tous les produits qui... Apparemment, ce ne sont pas de la région, mais qu'on fabrique quand même dans la région. Il y avait quelques cours de cuisine en direct, j'ai assisté.
À côté du salon des Geek Days.
Exactement, bah oui, donc j'en ai profité. Effectivement, quand je suis sorti du salon Made in France, j'ai croisé plein de jeunes filles, de jeunes gens, on va dire, avec des cheveux des couleurs bizarres. Dans le métro, tu as des gens qui se baladaient avec des épées de Game of Thrones et compagnie. Bon, pas de problème, la sécurité était assurée. C'était très bizarre de se promener de près d'un salon geek comme ça un week-end. Et il y avait une troisième file d'attente, mais ça, c'était les vaccins, puisqu'ils ont rouvert un truc d'urgence pour les troisième vaccins. Fallait pas se tromper de ce jour-là.
Il y a de l'animation à Grand Palais, alors. Ouais, c'est génial. Alors, la team Nano, là, vous faites plusieurs salons en ce moment. Est-ce qu'il y a des salons à venir?
Ah oui, ou est-ce qu'on pourra vous rencontrer en vrai, éventuellement, prochainement, et tester le jeu?
Alors, j'en ai pas forcément pour début d'année prochaine pour le moment, mais on a le 19 décembre au manoir de
Mortevielle.
Ah non, c'est Tilloy les Mauflaines.
Oh,
c'est près d'Arras, ouais. Et en fait, c'est un manoir dans lequel on va faire un marché sur la solidarité internationale, ou la solidarité de manière générale, et en fait, du coup, dans le cadre de notre association ASBNC, on va pouvoir discuter de solidarité et puis passer un moment pour échanger autour de tout ça.
C'est un marché de Noël.
C'est un marché de Noël, oui. Et aussi, du coup, nous, on vend le jeu Citron Coco pour financer l'association. Donc, c'est aussi l'occasion de faire ces petits achats de Noël et de faire une bonne action en même temps.
Parce que on va rappeler le site, c'est citroncocojeu.com. On peut acheter le jeu, on peut avoir des informations sur l'association,
oui,
faire des dons,
fait,
j'imagine. Etc.
Sur asbnc.fr d'ailleurs, il y a un lien sur notre site citroncocojeu.com. Et si vous voulez, le lien de l'association, c'est asbnc.fr.
Mais le mieux, c'est quand même de venir nous rencontrer en vrai. Donc n'hésitez pas à venir au marché Noël. On vous apprendra le jeu et on discutera avec vous avec grand plaisir.
C'est ça.
Parce que le jeu, alors on va en parler tout à l'heure, mais il faut le voir en action. C'est vrai que ça rend des parties très interactives et fort plaisantes. Alors vous, on voit que vous êtes des gens un peu compétitifs.
C'est pas juste ça.
Non mais eh, vas-y que.
Non mais heureusement qu'on a pas fait une partie en direct. Là, ça aurait clashé.
Mais le jeu s'adapte en fonction des joueurs aussi. Ouais, donc ouais, il y a exactement. Mille et une manières de jouer au jeu. On n'est pas obligé de jouer comme Justin et d'être brutal en arrachant les cartes dans tous les sens. On peut tout à fait jouer en étant absolument calme et en réfléchissant à des stratégies plus poussées.
Oh bon, ça ne nous intéresse plus. C'est vrai, les vrais joueurs expérimentés qui jouent depuis de très longues années ensemble, quel que soit le jeu que tu leur mettes dans les mains, ça va finir par partir.
Il faut venir nous voir jouer à la belote. Alors rapidement, Dominique, pour parler un peu de l'agenda, je vois que tu nous as dégoté encore de la brique très prochainement.
Ah oui, encore, bah oui, c'est devenu ma passion, c'est ça, c'est les festivals de Lego, de Playmobil et compagnie. Et bah, la semaine prochaine, donc samedi 11 et dimanche 12, c'est à Delémont, donc pas très loin d'ici, hein, c'est juste au nord, tout au bord de la frontière belge. Donc de 10h à 18h, c'est 2€ pour les grands, 0€ gratuit pour les petits, et donc 300 mètres carrés de Lego, des expositions, des concours. Il y aura une fusée de Tintin de 3 mètres de haut, par exemple. Il y a ce genre de choses.
Celle pour aller sur la Lune, là ?
Exactement.
Ok. Ouais,
donc c'est aller dans un salon de Lego, de briques, de fans de briques, etc., c'est très impressionnant. Même si on ne peut pas toucher en ce moment à cause de... Hein, vous savez quoi.
Et rapidement, parce qu'on parle de jeux de société, c'est Trick Track qui va
c'est
délivrer...
Tous les ans, le site Trick Track, la référence française, on va dire, du jeu de société, organise un petit concours sur le forum Trick Track. On peut voter. Une espèce de système de finale. À chaque fois, ils mettent deux jeux, genre Citron Coco contre Blanc Manger Coco. Et les gens doivent voter lequel ils préfèrent. Et le gagnant va à l'étape suivante, qui sera... Il affrontera un autre jeu. Et on a les finalistes. Alors maintenant, au tout début de dans l'histoire, il n'y avait qu'une seule catégorie, en fait. Il n'y avait pas de mélange. Maintenant, il y a des catégories experts, enfants, jeunes, solo, peut-être pas solo, mais
si,
jeu à deux.
Maintenant, il doit avoir solo. Ouais.
Bientôt, le jeu solo, ouais. Ils en discutent. Et jeu à deux, etc. Et donc, si vous allez sur le site tricktrack.net, il y a la liste des jeux. Ouais,
c'est ce qu'on appelle couramment maintenant le tricktrack d'or, qui peut être affiché sur certaines boîtes de jeux que vous trouvez dans les magasins
spécialisés.
Oui, parce
que c'est un logo, c'est pas juste un truc entre geeks du site. Quoi. C'est ça qui est... Et c'est très important.
Alors Dominique, tu seras ravi, je vois que Dune Imperium est en tête de liste.
Mais oui, c'est un très bon jeu, il n'y a pas de problème. La boîte est un peu grosse à mon goût, mais...
Allez, je vous propose enfin de parler du sujet un peu qui nous réunit autour de la table, puisque nous sommes passionnés de jeux et de société dans ce terme ludique. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Citron Coco ? C'est le jeu, le nom du jeu, nous sommes d'accord ?
Oui, carrément.
Alors, comment est-ce que il a été créé ? Quelles sont un peu les premières bases ?
Je sais pas si on part du début.
Ah oui, donc on est allé un peu vite au début, on a commencé à présenter, mais c'était un peu prématuré.
C'est en 1872.
Bon, vous avez présenté un petit peu, effectivement, la conception, etc. Mais aussi, avec le cheminement, après, c'est bien de se mettre autour d'une table. Bah, vous êtes étudiant, ingénieur, donc se mettre autour d'une table pour un projet, ça marche, mais en fait, on veut faire son jeu à soi.
Et encore plus pour des projets farfelus.
Et puis, quel truc, est-ce qu'on fait ça juste entre nous ? Est-ce qu'on monte une asso, une entreprise ? Est-ce qu'on... Et pourquoi on le fait ? Combien ça va coûter ? Toutes ces étapes.
12€.
Oh, bravo.
L'idée, c'est qu'à la base, c'était un projet entre nous. Hein. On jouait, comme on l'a dit tout à l'heure, on jouait aux cartes, on s'amusait entre nous et on s'est vite rendu compte que faire cette version un peu coopérative, donc en 2 contre 2, et d'ajouter des nouvelles règles, en fait, progressivement, on a un nouveau jeu qui apparaît et qui s'éloigne de plus en plus de ce jeu d'origine et qui a tendance à plaire d'ailleurs à ceux... à qui on le présente, et en fait c'est via ces échanges avec des nouvelles personnes à qui on a présenté le jeu qu'on s'est finalement dit au fur et à mesure qu'il faudrait qu'on en fasse vraiment notre jeu, quoi. Et donc en fait c'est durant l'année 2018-2019 qu'on a contacté des amis designers et qu'on a commencé à faire des dessins sur le thème de la piraterie qu'on avait imaginé pour le jeu. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on a un jeu qui est créé et qui fait nos premiers prototypes.
Je ne sais pas si votre question c'était à la base de la base, comment on l'a imaginé. En fait, Si c'était ça de cette question, peut-être je suis totalement à la ramasse. Hein.
En fait, c'est de savoir de comment un jeu qui démarre entre potes puisse après partir sur un projet sérieux.
Vous l'avez fait tester à d'autres.
C'est ça. C'est la première étape en fait. Et après, quand on est parti en Namibie pour notre projet de volontariat international, on l'a fait tester à d'autres personnes, d'autres nationalités aussi, qui du coup connaissaient des versions un peu différentes. Du Dutch à Malou, etc. Et qui, en revenant en France, on s'est rendu compte que non seulement avec les enfants, ça avait des bienfaits, ne serait-ce que pédagogiques, pour la mémoire, l'entraide, la cohésion, et en même temps, qui pouvait plaire à des jeunes, des plus vieux, et le côté stratégie. Et donc, en revenant en France, on a fait notre Kickstarter, qui est du coup un peu plus sérieux, si je puis dire, et qui nous demande d'imprimer 500 exemplaires, 1000 exemplaires, voire plus.
Ah, parce qu'à ce moment-là, vous avez déjà réfléchi. Je dis, est-ce qu'on ne va pas devenir millionnaire avec un jeu non, déjà, même avec un jeu qui marche.
C'est compliqué.
Le but, c'était quoi, c'est ça, et puis,
D'aider les jeunes. En fait, on a créé le jeu en s'ennuyant entre les cours de la fac. Donc ça, c'était un peu...
Bravo, l'image des étudiants. On va avoir un appel de l'Isène, là.
On a dit entre les cours, hein, pas pendant les cours.
Alors ça, c'était un peu ce qui a lancé la chose. Et après, il y a eu notre mission en Namibie. Ça, c'était vraiment le catalyseur. Et ce qui nous a fait passer un peu du jeu entre amis à un jeu vraiment très concret qu'on voulait commercialiser. Parce que là-bas, on a rencontré des enfants qui étaient absolument incroyables, qui vivaient dans des conditions de vie, mais qui sont inimaginables. Et on voulait vraiment les aider. Et sur place, comme on avait imprimé 5 prototypes du jeu avant de partir en Namibie, on a pu leur faire essayer le jeu et ça marchait très bien. Ils accrochaient complètement et comme c'est un jeu de coopération, là où il y avait tout le temps de la violence, des bagarres et tout, vraiment ça les apaisait. Il ne faut pas se fier à la façon de jouer de Justin hyper violente. C'est un jeu qui vraiment favorise l'écoute et l'entraide. Ouais. Et c'était vraiment le point d'amélioration principal qu'on a noté chez les enfants. Ça les apaise. Et c'est vraiment quelque chose de très très important dans un milieu où on est dans un bidonville, dans un des pays où il y a le plus d'inégalités au monde. C'est un milieu qui est quand même vraiment dur. Hein. On est sur des enfants qui se battent tout le temps, qu'il faut encadrer avec bienveillance parce que sinon ça part en cacahuète. De partout.
On peut revenir justement, parce qu'on l'a évoqué vite fait, mais vous êtes partis tous ensemble, donc vous étiez quatre, vous êtes rencontrés à l'Isène comme ça, et vous êtes aussi partis à quatre à la fin de vos études en mission. Comment vous avez été choisi? On se dit pas d'un jour, on n'a rien à faire, on va partir quelques mois en Namibie, on va lancer une flèche pour voir où on va.
Non, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. À la base, c'était un projet que Nathan m'avait proposé uniquement quand on était en quatrième année. Il m'a dit, écoute, Justin, c'est un projet qui me tient à cœur, j'aimerais bien faire une mission humanitaire ou solidarité. Et en cinquième année, finalement, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, puisqu'on était proches avec Hugo et Olivier aussi, on en a profité pour le proposer à Hugo et Olivier. Et du coup, ils ont tout de suite adhéré, ils étaient... Évidemment, ils voulaient le faire. Et après, ce qui nous animait, c'était pas vraiment la destination à la base. C'était surtout le projet, ce qu'on pouvait apporter. Et il s'est trouvé que on avait plusieurs choix. On avait Madagascar, on avait du coup la Namibie. Et ce qu'on a retenu, c'était la Namibie plus pour le projet que pour la destination.
L'objectif, c'était pas tant de faire une mission en soi. C'était plus de donner un peu de notre temps pour aider les gens, pour aider les jeunes en particulier. On se sentait très très privilégié d'être dans une école comme l'ISEN, d'avoir passé 5 ans à apprendre, à amasser une tonne de connaissances et à jouer, évidemment. Et du coup, avant de se lancer dans la vie active, et moi en particulier, j'avais besoin d'avoir cette ouverture sur les autres, de partager un peu de tout ce que j'avais reçu pendant toutes ces années. Et c'est comme ça qu'on s'est motivés tous les quatre à partir directement sur place. Et du coup, le choix de la Namibie, c'est absolument pas pour le pays, c'était vraiment pour l'association, pour les enfants sur place, parce que c'était un projet qui nous parlait énormément.
Mais il n'y avait pas justement que l'ASBNC à la base de la base, c'était aussi pour enseigner la musique à une organisation qui s'appelle Yona, et où justement Nathan donnait des cours de violoncelle. Donc on avait ramené deux violoncelles en avion. Pour bon, ce...
Financé par Lysen.
Oui, voilà, c'est... Oui, tout ouais, à fait.
Lysen, meilleur sponsor.
Et du coup, Nathan donnait donc, ce qu'il n'a pas dit, et c'est qu'en plus du BNC, il y avait aussi, lui, il donnait ses cours de violoncelle, je ne sais plus, un ou deux jours par semaine.
C'était... Ouais, ouais, mais en fait, pour recentrer la mission, en fait, il y a eu évidemment, comme Justin l'a dit, cette partie Yona où on donnait des cours de musique, et cette partie le BNC. Donc,
le BNC, je vais essayer de bien le prononcer, c'est le Bernard Nordkamp Center.
Ouais, c'est trop compliqué, on peut juste dire BNC, je pense.
Non, mais peut-être dire Bernard comme a dit Dom pour ne pas éviter de penser à une banque. Parce que moi, chaque fois que tu dis BNC, je pense à une banque. Ah, je sais pas pourquoi.
C'est vrai.
Je me dis, tiens, c'est des banquiers qui partent d'un habit. Ok, pas de
BNC Paribas.
Voilà.
Ouais, et c'est au BNC qu'on a vraiment développé le jeu. On a changé les règles pour que ce soit encore plus adapté pour les enfants. Et c'est en rentrant de Namibie qu'on a fondé notre entreprise et notre association en parallèle. De un, pour commercialiser le jeu qui avait plu et on voulait la ramener en France, on s'est dit, si les enfants en Namibie ont autant aimé, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas pareil en France. Mmh. Il faut qu'on le fasse essayer aux jeunes en France. Et de deux, notre association, parce qu'on voulait trouver un moyen d'aider ces jeunes. Ça nous a tellement bouleversé et changé comme expérience qu'en rentrant, on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas les laisser comme ça. Ils sont 140 enfants dans un centre, il y a un employé permanent. C'est vraiment pas facile, il faut qu'on trouve un moyen de les aider. Et du coup, on a créé cette association, l'ASBNC, pour envoyer du soutien plus régulièrement et de façon plus pérenne que ce qu'on a fait au BNC.
Donc, alors, ce type de mission, c'est on la prépare un mois en France, c'est ça? Ensuite, on part généralement 6 mois sur le terrain.
Alors c'est... là, c'était 2 mois.
Ouais, bah, c'est parce que nous, on est partis comme oui. ça. En fait, nous, on est partis de nous-mêmes sans association, voilà, sans cadre, entre guillemets. Hein, mais nous, nous, ce qu'on crée, c'est...
Oui, c'est ça. Oui, pardon. Ouais, on s'est tâté pendant 2 ans un peu dans toutes les démarches administratives pour savoir quelle forme on donnerait à la mission. Et en fait, après avoir contacté des associations lilloises et différentes personnes, on s'est aperçu que le cadre le plus propice pour faire ce genre de grosse mission en Namibie, c'était de faire un service civique. Et du coup, on s'est associé à l'ADIS, qui est une association lilloise qui possède l'agrément de service civique, qui peut envoyer des jeunes en service civique, et on leur a demandé...
L'ADICE, c'est A-D-I-C-E, ouais. Donc s'il y a des auditeurs qui nous entendent, des étudiants, ils peuvent éventuellement les contacter pour...
Oui, carrément. Tout à fait.
Pour postuler, oui.
Ouais, vous pouvez contacter l'ADIS ou voir sur notre site internet de l'ASBNC la mission qu'on propose et voir tout le détail.
Parce que maintenant, c'est vous qui envoyez des gens là-bas? Vous
ouais.
pouvez au moins les diriger, quoi.
Oui, oui. On attend une dernière autorisation qui devrait arriver dans les semaines à venir et le recrutement devrait commencer très très bientôt. Donc si vous êtes intéressé par une mission de solidarité internationale en Namibie et que vous avez un attrait pour la musique ou n'importe quel instrument ou quoi... n'hésitez pas, c'est vraiment ça change une vie, quoi. C'est vraiment incroyable.
J'ai juste une question, la Namibie, c'est francophone ou anglophone?
Anglophone. Oui. C'est un pays qui a été colonisé à l'origine, hein, et ils ont ramené, enfin, ils avaient, alors Justin saura le nombre exact, une dizaine de dialectes différents dus 16. À la colonisation.
16.
et en fait, ils ont décidé d'instaurer l'anglais comme langue nationale il y a peu. Donc,
c'est une colonie allemande. Ouais. Ouais. C'est une colonie allemande et c'est pour ça que la langue la plus fréquemment parlée par la génération entre les 30-50 ans, c'est l'afrikan. Ça dépend évidemment des quartiers, de d'où on se place en Namibie. Mais il y a tous les dialectes des tribus qui sont encore parlés par les grands-parents. Il y a l'afrikan qui vient du coup de cette colonisation allemande qui est parlé par la génération adulte aujourd'hui. Et depuis peu, l'anglais a été instauré comme langue officielle. Mais elle n'a pas d'histoire dans ce pays. Et donc, elle a été imposée aux jeunes qui doivent aujourd'hui l'apprendre à l'école. Et ça en fait un pays où il y a toutes les langues qui se réunissent et parfois les enfants dans la cour de récré ils peuvent même pas communiquer entre eux.
Vous avez pas essayé de leur apprendre des petits mots de ch'ti quand même?
Alors c'est assez marrant parce que ça se rapproche aussi beaucoup du néerlandais et donc du coup il y a des mots qu'on pourrait comprendre
Si on a fait un peu d'allemand ou néerlandais il y a quelques mots qu'on peut choper.
D'ailleurs je pense que ça n'a pas été dit mais la Namibie, peut-être que tout le monde ne sait pas où est-ce que ça se situe. C'est à côté du Botswana ou juste au-dessus de l'Afrique du Sud.
Nord-ouest, ouais.
Nord-ouest.
Donc j'imagine que, vu les derniers événements, c'est pas le moment d'y aller.
C'est un peu compliqué, ouais, c'est vrai que...
Non, ça maintenant ça marche. Hein,
ça fait peut-être partie des pays où les, on reçoit plus de personnes en ce moment, vu que la nouvelle souche a été découverte dans ce
pays. En effet, ouais. Mais néanmoins, l'agence de services civiques français autorise toujours en ce moment, je crois, les voyages en Namibie. Donc ça, on est encore ouvert.
On ne sait pas si on peut revenir. Non, on peut y aller.
Ça fera un très beau service civique de 3 ans.
Alors, je vous propose de réécouter un peu de musique, ce qui permettra à notre dernier invité de se préparer.
De s'échauffer.
Alors, c'est vrai que Dominique, tu nous avais ramené, il y a un petit bout de temps, un CD de... Imani,
la jeune chanteuse qui est d'origine africaine aussi, je ne sais plus de quel pays, peut-être la Namibie, je ne suis pas sûr. Et elle avait sorti plusieurs albums où elle chantait elle-même avec des instruments, enfin avec son groupe, etc. Et en ce moment, elle est en concert, en tournée, on va dire, avec que des violoncelles. Ça s'appelle Voodoo Cello, c'est le nom de l'album. Elle reprend ses chansons à elle, mais peut-être des chansons d'autres aussi, si je ne dis pas de bêtises. Elle a 8 violoncelles avec elle. Et les musiciens qui vont avec, bien sûr, sur scène. Je crois que le concert à Lille, c'était le 21 novembre, donc c'est raté, mais elle revient à Bruxelles. Et je précise qu'au passage, elle se bat aussi, parce que c'est une des porte-paroles de la cause de l'endométriose, qui est une maladie. Alors, on n'est pas tous concernés autour de la table, on n'est que des mecs, mais on a des sœurs, des filles, ou je ne sais quoi, l'endométriose, elle est la porte-parole d'une association, et sur son site, il y a une partie des revenus de ses concerts qui vont à l'association. Ça fait des années qu'elle la défend, parce qu'elle-même, elle était atteinte. Donc c'est un beau geste en plus au passage.
J'ai le CD qui a du mal à rentrer dans la machine, mais ça je vais m'en sortir. Alors on va s'écouter un peu d'Imani pendant que notre invité se prépare.
You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold, lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. Did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm a coming back again. I got a taste of love in a simple way, and if you need to know, while I'm standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Once I never could hope to win, you started on the road leaving me again. The threats you made were meant to cut me down, and if our love was just a circus, you'll be a clown by now. And don't you know I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah.
Vous l'avez reconnu, la cover de I'm Still Standing d'Elton John, faite par Imani avec son cello. Or, je vous avais promis un invité surprise, Nathan, comme on l'a expliqué tout à l'heure. réalise, a fait plusieurs. Voilà, petite. Je mets ton deux micro de
musique. Il fait des études de musique à Bruxelles.
Voilà. Et il a ramené donc son magnifique violoncelle pour nous faire un petit morceau. Oui, je vais.
Oui, il y a Imani qui est jalouse à la
pente. Imani, va-t'en. Alors, je te laisse. Qu'est-ce que tu vas nous jouer d'abord ?
Alors, comme j'ai cru comprendre que dans cette émission sur la Radio Campus, il y avait des styles de musique extrêmement variés, je vais vous jouer. Un style de musique que je pense que très peu de personnes écoutent, c'est de la musique post-romantique. C'est un compositeur qui s'appelle Max Reger et qui a vécu à la fin du 19e, début 20e. Et il était très, très, très prolifique. En 43 ans de vie, il a produit plus de 500 œuvres pour tous instruments confondus, piano, orgue, etc. Il était organiste, monsieur. Je vais vous jouer, du coup. Un extrait de ses suites pour violoncelle seule qui sont absolument magnifiques, qui sont vraiment méconnues. Je pense que ça vaut le coup d'aller écouter ça sur internet. Du coup, c'est une esthétique post-romantique et c'est la période où les compositeurs commencent à déconstruire le concept de tonalité. C'est une époque très 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 intéressante parce que c'est là où Schoenberg et les autres inventent le dodécaphonisme, ces musiques hyper bizarres qui sont super difficiles à écouter. Et ben, ce compositeur-là, Max Reger, que je vais vous jouer, il est à la charnière entre le romantisme et cette période de déconstruction de la tonalité. Thank you.
grand merci Nathan pour ce morceau. Un petit live dans les studios de Radio Campus, c'est fait toujours plaisir. Et c'est vrai que bon, on a souvent des lives un peu plus rock, et puis voilà, ça nous permet de découvrir de nouvelles musiques avec une expertise assez pointue sur le détail du morceau, hein, bien sûr.
Est-ce qu'il faut avoir le même niveau pour faire la mission en Namibie ou pas?
Non, pas besoin.
Parce qu'en triangle, je suis fort, mais le reste...
déjà, merci à tous de m'avoir écouté. Ça fait très plaisir. C'est la première fois que je joue à la radio. C'est un morceau que je travaille pour mes examens, donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur.
Les prochaines étapes, donc là, tu es en quelle année? En master?
En master au Conservatoire de Bruxelles, oui.
Donc là, tu as encore combien d'années? Tu as l'examen final en cette année?
Non, c'est pas l'examen final. Je suis en première année de master, donc il me reste encore un an d'études après. J'ai un peu de marge de progression encore. Mais j'espère que, en tout cas, avec ce petit morceau, j'aurai rendu cette émission unique, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va jouer sur ce plateau du Max Reger.
Pas en live, je suis sûr qu'il y a une émission de Radio Campus qui a dû en passer. Il y a vraiment de tout sur Radio Campus, mais nos auditeurs le savent déjà.
Alors, Justin, depuis tout à l'heure, me fait les gros yeux parce qu'il veut expliquer les règles de Citron Coco, le jeu.
Bien sûr. J'ai combien de temps? 8 minutes. C'est simple. On commence par quoi déjà? Le but.
On mélange les.
Non, évidemment. Le but du jeu, déjà, c'est d'avoir le moins de points possible que ses adversaires. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ça se joue en 2 contre 2. Et chaque carte est numérotée de moins 1 à 13 sans le 0. Donc, évidemment, le 6 vaut 6 points, le 7 vaut 7 points, etc. etc. Vous avez compris. Et au début du jeu, chaque joueur aura 4 cartes face cachées devant soi. Et le but est donc de connaître ces cartes et de savoir à quel moment on a le moins de points.
Comment je me débarrasse de mes cartes si je ne sais pas ce qu'elles valent? J'ai peut-être envie de les garder. On le fait souvent, et expliquer des jeux à la radio, c'est très compliqué.
Sans exemple, c'est sûr, c'est moins évident. Mais je vais laisser évidemment l'expert.
L'expert, carrément.
Hugo. Non,
tu veux que je te relaie?
Ouais, je suis chaud.
Ouais, donc comme disait Justin, on a des cartes face cachées devant nous. Et l'idée, c'est en équipe d'avoir le moins de points. Donc au début, on a 4 cartes. Et on va piocher soit dans la pioche, soit dans la défausse plus tard. L'idée étant de piocher des cartes faibles. Pour avoir dans son jeu plus tard des cartes faibles, pour avoir moins de points que l'autre équipe. Et donc on va prendre cette carte, la mémoriser, c'est la chose la plus importante, et l'échanger avec une carte de son jeu, et la carte de son jeu, on va la défausser, ce qui va permettre du coup, tour par tour, de connaître ses cartes. Et donc voilà, ce qui va permettre de baisser le nombre de points de l'équipe, progressivement. Et il se peut qu'à un moment, quelqu'un jette une carte que l'on a dans son jeu, et c'est pour ça qu'il faut s'en souvenir, et apparaît une mécanique de jeu rapide. Donc en fait, on va prendre la carte qui est identique et on va la jeter.
C'est ça, on se débarrasse de ces cartes, soit en posant une carte qui est déjà posée, là, parce qu'on a la même.
C'est ça. Donc ça, c'est un jeu rapide par carte identique. Donc jeu rapide, pourquoi? Parce qu'il faut être la personne la plus rapide à la jeter. Donc supposons qu'on joue avec Nathan et Justin, tous les deux ont un 5 qui apparaît dans la défausse, ça va être la personne la plus rapide, et je ne doute pas que ce soit Justin. La petite challenge pour la suite. Et l'autre personne reprend sa carte, et on sait qu'il a un 5 par exemple.
Sinon, il y a deux types de cartes, du coup, des cartes entre guillemets normales et des cartes à pouvoir dessinées par la personne de ma petite sœur.
C'est ça.
Que je salue et que j'aime beaucoup.
C'est beau.
Et du coup, évidemment, il y a des mécaniques différentes selon la carte à pouvoir.
Comme s'il n'y avait pas assez de chaos déjà. J'ai déjà les jeux de mémoire. Déjà, quand je suis tout seul et que j'ai mon jeu à moi, j'ai du mal. Si en plus, je me souviens du jeu de mon partenaire, c'est bon.
Ouais, c'est ça. En plus, on peut interagir avec son partenaire. C'est tout l'intérêt du jeu d'ailleurs. C'est d'arriver à retenir le jeu de chez soi et de son partenaire pour pouvoir jeter les cartes de son coéquipier. Parce qu'on peut en fait interagir avec son jeu aussi. On ne va pas piocher, remplacer chez lui, mais si par exemple je sais que Justin a un jeu rapide, je peux le faire pour lui, ce qui permet de le décharger de manière... décharger en mémoire et de s'entraider, quoi.
Et par exemple, c'est aussi un jeu de confiance, donc je vais pas forcément regarder la carte que Justin connaît parce que je sais qu'il la connaît, donc du coup, moi, je peux me permettre d'aller regarder
autre part. C'est typiquement un jeu où les premières parties, on va les perdre, si on pas le jeu, ouais. Et on va tout de suite choper les trucs qui vont permettre
c'est,
de...
C'est surtout que les règles, une fois qu'on les explique avec le support, ouais. je comprends ouais. toujours qu'à la radio, ça peut être un peu difficile, reste assez simple, on les comprend assez facilement, et on comprend assez vite qu'on joue avec des experts, hein, genre...
regarde, c'est vrai que c'est le genre de jeu où tu fais une partie de chauffe, mais pas un tour de chauffe, oui, tu comprends ça. Et ça va tout de suite.
C'est d'ailleurs comme ça qu'on explique d'habitude, hein, on prend un jeu et on fait un tour de jeu et ça va beaucoup mieux comme ça d'ailleurs parce que c'est vrai qu'à l'oral ou en les lisant
mais en dehors de toutes ces petites mécaniques, ce qu'il faut retenir du jeu, c'est que c'est un jeu de mémoire d'abord parce qu'il faut retenir toutes ces cartes. Ensuite c'est un jeu de stratégie parce qu'il faut imaginer comment est-ce qu'on va réussir à faire piocher les autres et avoir moins de points. Ensuite c'est un jeu de rapidité parce que parfois il faut être plus rapide que ses adversaires pour jeter des cartes quand l'opportunité s'offre à nous. Et enfin, c'est surtout un jeu de coopération. Parce que plus on joue avec la même personne, et plus on sait comment la personne va jouer, et plus on peut s'adapter, et on se comprend même sans se parler. Quoi. C'est un peu comme les gens qui connaissent le Kems, qui jouent parfois au Kems, et savent que quand on joue avec tout le temps le même partenaire, on finit par toujours gagner, tellement on se connaît bien, on n'a même plus besoin de communiquer pour savoir à quel moment il faut faire telle action. Quoi.
C'est ça. Et c'est un jeu qui fait du bien aussi, puisqu'il y a une partie de l'argent qui va à l'association, qu'on va le rappeler. Donc, pour toutes les informations, alors l'association, c'est asbnc.fr.
C'est ça.
Le jeu, les informations, on trouve tous les liens, c'est citroncocojeu.com.
C'est ça.
Voilà.
Alors, coco, et on peut COCO. Hein.
Ouais. Oui. Oui, bien vu.
Oh, oui.
Et Citron Coco, tout collé.
On peut acheter le jeu en ligne, on peut l'acheter si on vous croise sur un festival, etc. Mais on peut aussi le trouver dans des points de vente. J'ai vu que, alors, oui. Il y a depuis peu, vous êtes chez Rocambole, une boutique bien connue de Lille.
C'est ça. Alors, d'origine, on est à Ludivore, à Arras. Progressivement, on a été à La Bonne Pioche, à Saint-Omer. On a Kinkajou à Bruxelles. On a également Partageux à Maubeuge. On a un partenariat avec Apital aussi, qui est une société qui s'occupe des personnes dans les hôpitaux et qui leur propose des produits et des services en lien. Et depuis peu, Rocambole à Lille. Et j'espère que je n'oublie pas.
Un jeu de fabrication française, ce qui est important à préciser.
Ça nous tenait à cœur, oui.
Il nous reste une petite minute, si vous vouliez parler un peu de la team nano.
on leur invite. Les nanotechnologies, c'est vrai qu'on parle souvent de trucs de geek, d'intelligence artificielle, les nanotechnologies, ça fait longtemps, mais on va se repencher sur le sujet.
En une minute, ça va être un nano-discours. Alors.
Peut-être juste avant, préciser aussi que sur le compte Instagram du Citron Coco, il y a un concours actuellement qui est en ligne. Voilà, vous pouvez aller liker la publication, taguer trois amis avec lesquels vous allez pouvoir faire une partie de Citron Coco, et peut-être avoir la chance de gagner un exemplaire du jeu pour Noël.
Ben voilà. Ce qui est dit, qui termine l'émission. Donc, Nathan, Justin, Hugo et Jérémy, merci beaucoup.
On salue Olivier qui n'était pas avec nous, malheureusement.
De nous avoir rejoints pour cette émission. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. On va se quitter juste après le coup des 19h avec un peu de cello avec Jurizem Ishii avec le Path of the Wind qui est une version live.